This is a Siva podcast. Bonjour à toutes et à tous. Buongiorno. Migrazioni. Migration au pluriel. Voici le terme, l'idée, la notion qui va nous réunir pour quelques minutes et quelques épisodes autour de l'œuvre de Superstudio, en lien avec l'exposition présentée au Siva. Le décor, Florence, les splendeurs de la Renaissance, l'Arno qui sort de son cours, le 1668, mai 68 et ses suites, le mouvement étudiant et ouvrier, les sit-ins, l'émergence de l'informatique et celle de l'écologie, les voyages, l'anthropologie, la contre-culture, les amours, les amis et les lettres qu'on leur écrit, la vie qui bouillonne, l'art, la musique... et surtout, l'architecture. Nous vous retrouvons pour 5 épisodes
avec Beatrice Lampariello, historienne de l'architecture, professeure d'histoire de l'architecture à l'Université catholique de Louvain et auteure des essais et des livres sur Superstudio.
Et moi-même, Emmanuel Capone-Piriou, architecte, historienne de l'architecture et commissaire de l'exposition Superstudio Migrazioni au Siva. Pour ce 5e épisode, on clôture notre exploration de l'œuvre de Superstudio en s'arrêtant sur une dimension spécifique de celle-ci, la place qui occupe la raison, au sens de cette capacité de l'esprit humain à organiser ses relations avec le réel. Pour commencer, une image, celle d'une nuée d'oiseaux qui s'envole dans le ciel. Cette image, elle est issue de la recherche que le groupe fait en 1969 pour la société Abbott Print, quand on leur commande un motif bicolore pour recouvrir un stratifié qui lui-même recouvrira des meubles. Cette image, elle est produite donc en parallèle de la grille, cette mise en ordre du réel, cette mise en ordre du monde, dont, on l'a dit, elle peut traverser les échelles pour aller de l'objet jusqu'au monument, jusqu'à la ville, jusqu'au territoire. Cette nuée d'oiseaux, elle permet de penser la place de la raison, de l'architecture comme activité cérébrale, d'une façon renouvelée. Elle permet de penser à l'architecture de Superstudio comme étant en migration, comme étant justement mouvement permanent, parce que peut-être elle ne serait plus finalement qu'une production et qu'une transmission d'idées.
La raison de Superstudio n'est pas une raison facile, est une raison complexe, comme il l'explique le groupe même, quand, dans les textes sur le design, il affirme de vouloir réintégrer l'irrationalité et la poésie dans l'horreur quotidien. La raison de Superstudio a des sources différentes. Bien sûr, regarde à l'origine de cette forme particulière des raisons qui se trouve dans l'œuvre de l'époque des Lumières, Boulay-Ledoux. Époque des Lumières qui, à partir de la deuxième moitié des années 60, était entrée dans les débats de l'architecture italienne grâce à une figure emblématique de ces années-là, c'est-à-dire Aldo Rossi, qui avait décidé de publier, en traduisant tous les textes, l'essai sur l'architecture de Boulay, et en rédigeant lui-même une introduction dans laquelle il explique la différence entre un rationalisme conventionnel, celui qui était désormais... qui dominait désormais l'architecture contemporaine, la réduction justement du mouvement moderne dont on a parlé, et qui devait désormais laisser la place à un rationalisme différent, un rationalisme qui lui-même a défini exalté.
Peut-être qu'on peut donc insister sur le fait que cette raison, ce rationalisme, n'est pas, comme tu l'as dit, une forme d'enfermement, il n'est pas une forme de contrainte du corps, de la vie, comme l'était le rationalisme au sens industriel de la chose, qui venait contrôler toutes les dimensions de la vie, du temps libre, du territoire, mais plutôt le vecteur d'une libération.
Et justement, pour amener, pour aller vers cette libération, on doit donner à ces rationalismes des références différentes. Rossi parle d'exaltation, donc de l'introduction des références et des intérêts biographiques et autobiographiques dans sa propre production. Et les Archizum même utilisent cette définition quand ils publient leurs photomontages sur les discours des images. Et aussi dans certaines lettres, Superstudio utilise cette définition. Il parle pas simplement d'exaltation, mais aussi de néorationalisme. Et dans ce sens-là, c'est aussi significatif qu'à la fin des années 60, début des années 70, il commence une relation épistulaire entre Rossi et Superstudio. Je vous lis un morceau de la lettre que Natalini envoie à Rossi en décembre 1970. I tuoi enunciati d'architettura ci hanno molto aiutato nella ricerca di una calma ragione, una regione della ragione, dove gli atti sono misurati e precisi, dove anche l'ambiguità sia priva di sbavature e i grigi siano colori. Avec ces petits mots, Superstudio est en train de déclarer son admiration vers l'œuvre d'Aldo Rossi. Et dans cette même lettre, il affirme de s'imaginer un des projets dessinés par Rossi pour un village à côté de Florence, Scandicci, construit.
Peut-être qu'il faut, pour la précision historique, rappeler que Aldo Rossi représentera dans ces années-là le pôle opposé au néo-avant-garde, à l'architecture radicale. Il sera même presque un ennemi intellectuel et architectural de cette scène radicale qui est composée d'Archizum, mais aussi en partie de Superstudio, d'Ettore Sozzas, etc. Aldo Rossi sera la figure de proue de ce qui est appelé la tendenza, la tendance, qui est un mouvement architectural qui va avoir un succès certain, qui prône une sorte de retour à un ordre disciplinaire.
Avant de devenir le pire ennemi, Rossi a quand même montré à Archizum et à Superstudio une direction, qui est celle de la raison. Une direction qui ne peut pas être mélangée, parce que l'exaltation de Rossi n'a rien à voir avec le rationalisme de Superstudio. Et pour ce qui regarde les références, et aussi pour ce qui regarde l'objectif même de ces rationalismes. Superstudio n'est pas intéressé à récupérer les éléments autobiographiques, il est par contre intéressé à amener aux extrêmes conséquences cette rationalité et cette raison.
Et cette façon d'amener aux extrêmes conséquences passe aussi par des voies qu'on pourrait qualifier d'ésotériques, voire même de religieuses, tu parlais d'irrationnel, en tout cas de quelque chose qui échappe à la raison telle qu'on l'entend peut-être d'un point de vue plus classique ou plus occidental. À l'époque, on a cité l'intérêt de Piero pour l'anthropologie, de Piero Frassinelli pour l'anthropologie, et donc pour toute la dimension rituelle et mythologique humaine dans ces différentes formes et dans ces différentes origines. Mais il faut savoir aussi que Superstudio, à l'époque, est abreuvé de philosophie orientale. Natalini lit des penseurs indiens, des grands textes de la philosophie indienne, orientale. Et puis, il y a aussi la dimension, évidemment, de la fiction. Cette fiction parfois ésotérique, avec l'importance de la figure de Borges, de l'auteur des fictions, justement, mais aussi de l'Aleph et du Livre de Sable. Et puis, et là, c'est quelque chose qui est, disons, un jeu sur la limite pour la science et la science-fiction, et parfois pour une science qui est, ce qu'on pourrait qualifier de fringe science, donc sur toute cette fascination pour cette technologie naissante qui est lue un peu dans une perspective presque magique ou fictionnelle. Comme on le disait, donc la dimension ésotérique ou en tout cas plus imaginaire de cette raison. Superstudio va la trouver aussi dans l'œuvre d'autres architectes, et notamment d'architectes autrichiens dont le groupe se rapproche, notamment Friedrich Sanflorian ou Raymond Abraham, qui sont des architectes qui vont explorer une dimension presque psychanalytique de l'architecture, qui vont ressourcer l'architecture à l'aune de la psyché, à l'aune d'une compréhension de l'esprit qui est matinée de rêves, matinée également d'illusions, de jeux, justement, la perception au sens plus fondamental du terme. Et puis, il y a évidemment la relation avec Ettore Sottas, c'est ce qu'on a cité maintenant de nombreuses fois. Ettore Sottas, à l'époque, est marié à Fernanda Pivano, qui est une figure fondamentale de ces années-là, qui a été une éditrice et une traductrice d'importance, puisque c'est par elle que toute la Beat Generation, tout ce courant littéraire américain va être importé en Italie, va être traduit en Italie, va être diffusé en Italie. Pivano et Sottas vont ensemble fonder une revue qui s'appelle Pianeta Fresco et qui va mêler l'art, la spiritualité, la littérature, l'architecture, etc. Et il y a une lettre que Nathalie y adresse à Sottas, justement, où il lui fait part de, là aussi, de son amitié, d'une certaine façon. Et il lui écrit « Di lettere non spedite ce ne sono già anche troppe. Tutte le nostre architetture sono lettere non spedite, messaggi in bottiglia, biglietti attaccati a zampine di piccioni, missive amorose o libelli diffamatori. Tutte cose comunque che restano nei cassetti, nei 2000 cassetti di cui noi e le donne di Dalì siamo pieni. » Donc il qualifie, en parlant des lettres qu'il n'a jamais envoyées, il qualifie les architectures de Superstudio de lettres non envoyées, de messages en bouteille, de billets attachés à la patte des pigeons, de lettres amoureuses et de projets, d'idées qui restent dans les tiroirs.
Dans la direction d'un rationalisme éversif, j'aimerais aussi rappeler une des phrases que le groupe utilisera souvent, qui est récupérée du peintre Goya et qui affirme que le sommeil de la raison produit des monstres. Nathalie ajoute aussi que les monstres sont l'exception, mais c'est aussi quelque chose de merveilleux. Et c'est cet intérêt pour une dimension autre de la rationalité qui guidera les groupes dans les derniers projets de la moitié des années 70, comme tu disais, Emmanuel, accompagné pas tout seul, mais accompagné par d'autres architectes, par d'autres amis, par d'autres interprètes d'un renouvellement du rationalisme sur des bases différentes. Et dans tous les personnages que tu as bien titre cités, il en manque un, qui est Colas, qui exactement dans la même période est en train de commencer à étudier les hystérismes de la ville, avec lesquels Nathalie, mais aussi Toraldo di Francia, c'est qu'ils avaient un profil plus international grâce à la connaissance de la langue, avaient commencé un autre échange de lettres, et Colas qui demande aussi à Superstudio de construire une première plateforme pour l'étude de la ville contemporaine, celle que Colas avait commencé dans le cas de New York, celle que les groupes de Superstudio avaient imaginé de détruire pour imaginer une nouvelle société pour un homme nu qui est capable, lui seul, de vivre sans avoir besoin d'architecture.
You've been listening to a Siva podcast.